Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du lundi 20 mai 2024 dont voici d'abord les principaux titres. Le président de l'Iran, Ebrahim Raisi, et son ministre des Affaires étrangères ont perdu leur vie dans un accident d'hélicoptère. Tentative de coup d'état déjouée à Kinshasa, les autorités militaires impliquent des assaillants congolais et étrangers.
D'après les informations qu'il y a la nationalité américaine, a été neutralisé avec trois autres. Et puis,
les forces américaines quitteront le Niger d'ici mi-septembre selon un accord bilatéral. 52 ans après l'unité du Cameroun, Yaoundé est confronté à des défis sécuritaires majeurs.
Ces opérations vont se poursuivre dans toutes les zones frontalières et elles vont même s'intensifier. Elles se déroulent également dans le Mauritania.
Des centaines de personnes soutiennent le président tunisien après les arrestations controversées. Biden promet d'écouter les manifestants pacifiques contre la guerre à Gaza lors de sa visite à l'université de Martin Luther King à Atlanta. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi est décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère, selon les médias iraniens. Il va être remplacé par le premier vice-président Mohamed Mokhber avant une élection présidentielle qui devra se tenir dans les 50 jours. Dididiko.
Plusieurs médias iraniens ont annoncé ce lundi matin la mort du président Ebrahim Raisi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian dans l'accident la veille de leur hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran. Une déclaration des autorités est encore attendue. En attendant, le président Raisi va être remplacé par le premier vice-président Mohamed Mokhber. L'article 131 de la Constitution de la République islamique prévoit qu'en cas de décès, de destitution, de démission, d'absence ou de maladie d'une durée supérieure à 2 mois du président, c'est le premier vice-président qui assume les pouvoirs du président. Ce processus doit avoir l'approbation du guide suprême, précise l'article, alors que l'ayatollah Ali Khamenei est la plus haute autorité du pays et son chef d'État. La Constitution prévoit qu'un conseil doit organiser l'élection d'un nouveau président dans un délai maximum de 50 jours. Le futur président par intérim, Mohamed Mokhber, 68 ans, a été nommé par Ebrahim Raisi comme premier vice-président en août 2021, après la présidentielle. Monsieur Mokhber a occupé plusieurs postes officiels.
Coup d'état déjoué dimanche matin à Kinshasa en RDC. Les autorités militaires affirmaient que l'armée de la RDC a contrecarré la tentative impliquant des Congolais et des étrangers parmi les assaillants. L'ambassade américaine a réagi. Eddy Issango.
Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la RDC, a expliqué à VOA Afrique que plusieurs Américains, dont 2 Blancs et 1 Congolais naturalisé britannique, figurent parmi les auteurs de la tentative du putsch déjouée dimanche matin à Kinshasa. Une 40aine d'assaillants sont arrêtés tandis que 4 autres, dont leur chef, un certain Christian Malanga, un Congolais naturalisé américain, ont été tués par les forces de sécurité. Les assaillants avaient, selon le général Ekenge, l'intention de s'attaquer dans un premier temps au domicile de la nouvelle première ministre Judith Suminwa et du ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba. Mais ils n'ont pas pu identifier les domiciles de la première et n'ont pas trouvé le deuxième chez lui. Ils se sont alors attaqués à la résidence de Vital Kamerhe, le ministre de l'économie, qui était à sa résidence avec sa famille. Ses proches et lui n'ont pas été touchés, mais 2 policiers qui assuraient leur protection ont été tués, a indiqué un collaborateur du ministre. Des obus tirés lors des échanges entre les assaillants et l'armée congolaise sont tombés de l'autre côté du fleuve au Congo-Brazzaville. Il y a eu des blessés et 10 des maisons touchées, selon le porte-parole du gouvernement de Brazzaville, qui considère qu'il s'est agi d'un incident isolé.
Les forces américaines stationnées au Niger vont se retirer d'ici la mi-septembre 2024. Cette décision intervient après un accord conclu entre les deux pays à l'issue d'une visite de responsables du Pentagone la semaine dernière à Niamey. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
Le ministère de la Défense nationale du Niger et le département de la Défense des États-Unis ont trouvé un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines qui a déjà commencé. Il est ainsi convenu que ce désengagement se terminera au plus tard le 15 septembre 2024 selon un communiqué conjoint signé dimanche par les deux parties dont les représentants se sont réunis 5 jours durant pour coordonner le retrait en bon ordre et en toute sécurité des forces américaines du Niger. Les deux délégations ont confirmé les garanties de protection et de sécurité aux forces américaines durant leur retrait, des procédures pour faciliter l'entrée et la sortie du personnel américain, y compris les autorisations de survol et d'atterrissage pour les vols militaires ont été établies toujours selon le communiqué. Les sacrifices communs des forces armées nigériennes et américaines dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont été rappelés et les efforts mutuels consentis dans la montée en puissance des forces armées nigériennes salués. Ce retrait des forces américaines du Niger, souhaité par les autorités militaires en place à Niamey, n'entache en rien la poursuite des relations entre les États-Unis et le Niger dans le domaine du développement notamment, indiquent les autorités. Le dialogue diplomatique continuera pour définir l'avenir des relations bilatérales entre les deux pays. Abdelrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Les obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, décédé le 1er août, ont débuté dimanche par la présentation des condoléances à sa famille à Abidjan, le coup d'envoi de 2 semaines d'hommages et cérémonies qui s'achèveront par son inhumation le 1er juin. De nombreux cadres de sa formation politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, parti d'opposition, était présent dimanche soir pour présenter leurs condoléances ainsi qu'une importante délégation du gouvernement ivoirien dont le Premier ministre Robert Begré Mambé. En Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté dimanche à Tunis en soutien au président Kais Saied après les récentes arrestations de journalistes, d'avocats et d'autres personnalités publiques dissidentes, des pratiques condamnées par la communauté internationale. Rosine Mounezer.
L'ONU et l'Union européenne ont qualifié il y a quelques jours d'illégal cette vague d'arrestations, mais le président Saïd a qualifié jeudi toute critique internationale d'ingérence étrangère et a ordonné au ministère des Affaires étrangères de convoquer les ambassadeurs de plusieurs pays. Non à l'ingérence étrangère car nous sommes un État souverain. Nous soutenons les dirigeants tunisiens, en particulier le président Kais Saïd, scandé les manifestants. Le rassemblement de dimanche a également eu lieu après une importante manifestation d'avocats et une grève générale plus tôt dans la semaine, suite aux descentes de la police et aux arrestations au sein du barreau national. Le chef du barreau, Hatem Meziou, avait appelé à mettre fin aux abus de pouvoir et appelé le président Saïd à intervenir. Mais le chef de l'État, qui a pris le pouvoir en 2021, a répondu jeudi en affirmant que l'arrestation de 2 avocats était dans le plein respect de la loi tunisienne qui garantit l'égalité et le droit à un procès équitable.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a promis dimanche de prêter attention aux manifestations pacifiques et non violentes contre la guerre menée par Israël à Gaza. C'était lors d'une visite dans l'université fréquentée par Martin Luther King, qui visait à attirer le soutien de l'électorat africain-américain et des jeunes. Gabi Dorsine.
Je soutiens les manifestations pacifiques et non violentes. Vos voix doivent être entendues et je vous promets que je les entends, a déclaré le président lors de la cérémonie de remise de diplôme au Morehouse College d'Atlanta, en Géorgie. Lors de son discours, Joe Biden a aussi appelé à un cessez-le-feu à Gaza, au retour des otages israéliens et assuré qu'il travaillait à une paix durable dans toute la région, incluant une solution à 2 États avec la création d'un État palestinien, la seule solution. Le discours du président Biden s'est déroulé sans perturbation au moment où les étudiants de cette université, historiquement africaine-américaine, avaient demandé à leur direction d'annuler le discours du démocrate, pointant du doigt son soutien à Israël, sujet de vive critique en pleine année électorale. Cette visite à Atlanta, dans l'État de Géorgie, dans le sud-est américain, fait figure pour le président de face-à-face le plus direct avec des étudiants depuis la vague de manifestations pro-palestiniennes qui a déferlé sur les universités américaines.
Le pape François a qualifié de folie l'attitude des États-Unis envers les migrants massés à leur frontière sud. Dimanche, au cours d'une interview sur la chaîne américaine CBS News, à l'issue d'une audience lundi, deux juges britanniques doivent décider s'ils accordent au fondateur de Wikileaks un nouveau recours contre son extradition vers les États-Unis. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nathalie Barge.
Selon Bloomberg, l'institution financière de développement panafricaine Africa Finance Corporation a dépassé l'objectif de 750 millions de dollars pour le fonds pour les infrastructures résilientes au climat en Afrique. Le PDG de l'AFC, Samaïla Zoubaïrou, a précisé que le fonds sera clôturé au deuxième trimestre 2024. Le prochain plan quinquennal vise à doubler l'impact de l'institution sur le continent en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire, les questions liées au climat. Le groupe bancaire panafricain EcoBank Transnational Incorporated va discuter avec ses actionnaires d'une levée de ressources financières lors d'une assemblée générale à son siège à Lomé le 6 juin. Fin décembre, TI a dit avoir mobilisé 200 millions de dollars lors d'une transaction dirigée par une filiale de l'AFD. 250 millions de dollars ont été obtenus par crédit relais arrangé par Afreximbank et l'AFC, portant le total des sommes reçues des créanciers à 450 millions de dollars. Au Maroc, la deuxième édition du JITEX Africa réunira du 29 au 31 mai à Marrakech des leaders experts, entreprises high-tech, investisseurs et universitaires de 130 pays. L'événement est organisé sous l'égide du ministère de la Transition numérique en partenariat avec l'Agence de développement digital. Le salon exposition occupera 21 halls et accueillera 1400 entreprises internationales, une augmentation de 70% par rapport à la première édition.
Et nous passons directement à votre page d'espoir avec Élisée Ongpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Eric et bonjour à tous.
Football d'abord, le Zamalek du Caire remporte la Coupe de la Confédération.
Oui, les Jésuitiens ont été sacrés à domicile suite à leur coup de victoire de 1-0 face aux Marocains de la Renaissance de Berkane. En finale retour de cette Coupe de la CAF, Zamalek, qui a été défaite 1 lors du match aller, a réussi à décrocher son deuxième titre dans la compétition après un premier sacre remporté en 2019. C'était déjà face à Berkane.
Et dans la compétition phare Élysée, la Ligue des Champions, le suspense persiste après la finale aller.
La faute à une bataille tactique qui a amené les deux équipes à se neutraliser score 0-0. L'Espérance de Tunis et Al Ahly du Caire n'ont pas réussi à se départager au terme d'une rencontre musclée où il y a eu un seul tir cadré, d'où la déception de Midel Cardozo, entraîneur de l'Espérance de Tunis, qui nous fait la lecture du match.
On n'est pas content vraiment, mais on est tranquille. Ce sont deux sentiments qu'on a en même temps. Je crois que c'est normal. Parce que on est fiers de notre chemin. On a joué 7 matchs dans Champions League au plus haut niveau. Je crois que nos joueurs sont à jouer à un niveau très fort, très bon. L'organisation défensive aussi, quelques efforts, beaucoup d'efforts des joueurs d'être, de comprendre comment défendre les espaces. C'est pas facile de jouer un match avec des joueurs qui exploitent l'espace interligne et même l'espace au dos d'une façon comme les joueurs de d'Al Ahly.
Les deux équipes devront se montrer bien plus réalistes lors de la finale retour prévue samedi prochain au Caire.
Et dans une semaine, Élysée, on connaîtra aussi le vainqueur de la Coupe du Togo.
Tout à fait. Et les deux clubs de Cara ont pris une option sur la finale après les demi-finales aller. Asco a été sans pitié face à Gomido de Kalimé, 4-1, et la SCK a fait l'essentiel 1-0 devant la SOTR. Les matchs retour sont prévus jeudi prochain, toujours au stade municipal d'Atakpamé.
En RDC, la saison tire vers sa fin.
Et le TP Mazembe se rapproche du titre après son succès 6-0 sur l'AS Dauphin. Les Corbeaux Luchois, toujours invaincus dans ses playoffs avec 8 victoires et 2 nuls, totalisent 26 points, 2 de plus que son rival, le Saint-Éloi Lupopo. D'ailleurs, les deux formations s'affrontent lors de la prochaine journée. Puis en Angleterre, c'est Manchester City qui est sacré champion devant Arsenal. Les Citizens, vainqueurs 3-1 de West Ham lors de la 38e et dernière journée du Premier League, remportent le 4e titre d'affilée, le 6e sur les 7 dernières saisons.
La page des sports signée Élisée Ongpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et Eric Manilakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. La situation est maîtrisée à Kinshasa où l'armée affirme avoir déjoué hier une tentative de coup d'État. Des assaillants incluant plusieurs personnes naturalisées américaines ainsi que d'autres nationalités en plus de locaux ont été capturés après s'être introduits au palais de la nation et avoir attaqué les résidences de quelques personnalités du régime en place. Eddy Issango a joint à Kinshasa le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge.
Il y a un groupe de gens conduit par un certain Christian Malanga qui a voulu déstabiliser les institutions en s'attaquant d'abord à la résidence du Père Caméré et ensuite s'attaquant au palais de la nation, là où il y a certains bureaux de la présidence de la République. Et il y a eu réaction des forces de l'ordre. Le leader, Christian Mananga, d'après l'information qui a la nationalité américaine, a été neutralisé avec trois autres. Et puis, il y a une quarantaine de membres qui ont été appréhendés, parmi lesquels Marcel Malanga, qui est le fils de Christian Malanga, et qui lui aussi est d'une nationalité américaine. Et on a aussi arrêté deux Américains, deux sujets américains qui étaient avec eux, ainsi que d'autres personnes qui ont été recrutées sous place.
Et vous savez au total combien d'étrangers étaient dans ces coups?
Dans le groupe, en termes de nationalité, puisqu'il y a plusieurs nationalités, mais j'ai retenu qu'il y a un Congolais naturalisé britannique. Et il y a lui-même, Christian Mananga, qui est naturalisé américain, son fils et deux autres blancs américains qui ont été arrêtés.
Il semble qu'il y a des obus de l'armée congolaise ou des assaillants qui seraient tombés au Congo-Brazzaville. Il y a une réaction du gouvernement du Congo-Brazzaville.
Oui, moi, j'ai suivi cette information. J'ai vu la réaction du ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville. Nous sommes désolés que cet obus soit tombé là-bas à la suite des échanges de tirs qui ont eu lieu de notre côté de la rive du peuple Congo. C'est désolé que des obus soient tombés du côté de Brazzaville, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ici.
Cela voudrait-il dire que les assaillants sont venus plutôt du Congo-Brazzaville?
En tout cas, je n'ai pas d'éléments suffisants pour aller dans le sens que vous insinuez, mais les services sont en train de creuser, les services sont en train de les interroger, et je pense que nous avons des informations. Je ne suis pas sûr qu'ils sont venus de ce côté-là. Il y en a qui ont pris les avions pour venir. S'ils sont passés par là, c'est des passages tout simplement, mais je suis sûr que les services vont nous donner des informations là-dessus.
Quelle est la situation exactement à Kinshasa maintenant? La situation est maîtrisée, il y a les calmes?
La situation est calme. Sous contrôle le matin et les gens avaient un peu, et beaucoup de gens ne savaient même pas, mais quand l'information a suivi, les gens avaient peur, je suis intervenu pour calmer la population puisque la situation était déjà, à partir de 6 heures, tout était déjà sous contrôle des postes de défense et de sécurité.
Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la RDC.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Cameroun, ce 20 mai est jour de fête nationale marquant la création en 1972 de l'État unitaire. Cet événement a intégré les deux régions anglophones au Cameroun. Cependant, 52 ans après, un conflit perdure entre l'armée et des séparatistes anglophones. Ce n'est pas le seul défi sécuritaire auquel le pays fait face à l'occasion de cette fête nationale. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
L'un des défis sécuritaires du Cameroun se trouve dans la région de l'extrême nord, en proie aux exactions de Boko Haram depuis 2015. La semaine dernière, 300 otages de Boko Haram ont été libérés au cours d'une opération menée par les militaires camerounais à l'intérieur du territoire nigérien, à 30 km de la frontière avec la région de l'extrême nord au Cameroun. Mediawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord.
Nous sommes ici à la base Bir, opération Alpha de Dabanga. Nous sommes arrivés juste quand ils rentraient d'une opération, coup de poing, d'assainissement. La récolte a été fructueuse parce qu'ils ont mis la main sur les Boko Haram. Ces derniers ayant pris fuite, ils ont pu quand même ramasser tout cet arsenal, ces fusils de fabrication traditionnelle. Donc à la suite de cette opération, ils ont pu mettre la main sur 300 personnes. La majorité, c'est des femmes et des enfants. Des dispositions ont été prises pour les reconduire vers leur pays, le Nigeria.
À la veille de la fête nationale, le commandant militaire a instruit que de telles opérations soient multipliées pour plus de sécurité dans cette partie du Cameroun. Mediawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord.
Donc, ces opérations vont se poursuivre dans toutes les zones frontalières et elles vont même s'intensifier. Elles se déroulent également dans le Mauritanaga. Dans la zone de Tourou, il y a déjà des bombardements. Bien évidemment, nous tirons le chapeau à ces vaillants soldats. Ils ont abattu un travail énorme et ils continuent à le faire.
Ailleurs, comme dans la région du Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones du pays, les autorités militaires affirment que le retour de la paix se fait progressivement depuis le déclenchement en 2016 du conflit qui oppose les séparatistes à l'armée. Le général de brigade Bouba Debekréo, commandant de la 5e région militaire interarmée.
Aujourd'hui, nous vivons un calme beaucoup plus relatif. Les attaques massives ont disparu. Les enlèvements, ça a beaucoup baissé. Nous sommes passés de la phase d'intervention et maintenant nous sommes à la phase de stabilisation.
En prélude à la fête nationale, un couvre-feu de 8 jours a été instauré entre 21h et 5h dans certaines localités de la région du Sud-Ouest en zone anglophone. Bernard Okalaï Bilaï, gouverneur de la région du Sud-Ouest.
Porteurs d'armes ne peuvent plus empêcher quoi que ce soit dans la région du Sud. Ça dit qu'ils ne peuvent pas empêcher la libre circulation et ne peuvent pas empêcher les grandes rencontres que sont les différentes fêtes nationales, les fêtes religieuses. Ça veut dire que la situation est sous contrôle, mais il y a encore quelques bandits qui procèdent à des kidnappings, à des meurtres, à des assassinats pour des fins économiques.
La société civile, à travers le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, a demandé au président de la République d'ouvrir des négociations directes avec les hommes armés pour une sortie définitive dans la crise anglophone. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Gabon, les partis politiques déclarés hors jeu dans l'organisation des prochaines consultations électorales. Les autorités du pays précisent qu'il s'agit d'une mesure provisoire avant la mise en place de nouvelles règles devant régir leur fonctionnement. La mission de préparer le calendrier électoral est désormais confiée au ministère de l'Intérieur et aux acteurs institutionnels de l'État. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Vobiangze.
C'est un projet de réforme institutionnelle issu des travaux du dialogue national. En plus d'avoir proposé la suspension de leurs activités pour une durée de 3 ans, le texte exige aussi l'exclusion des partis politiques des commissions électorales. Armel Feriz Djegou Mikala est un leader syndical.
Il faut qu'on aille plus loin que la suspension qui est de 3 ans. Il faut interdire littéralement, complètement la participation, par exemple, à ceux qui ont contribué à la destruction de notre État pour essayer de prôner la vérité. Cohésion sociale. Il faut que chacun réponde de ses actions.
Justine Lekogo, membre de la société civile, approuve aussi la mise à l'écart de la classe politique dans les préparatifs des futurs scrutins.
Beaucoup des partis politiques étaient des fonds de commerce. Ce n'étaient pas des partis pour plus ou moins beaucoup d'entre eux qui ont déposé des candidatures, qui se prenaient pour des candidats à l'élection présidentielle, candidats aux législatives. C'était des personnes qui voulaient juste faire un nom, qui voulaient juste avoir de l'argent, qui voulaient juste plus ou moins, après l'élection, aller manger à la table du roi.
Considérés à tort ou à raison d'être peu représentatifs des aspirations du peuple gabonais, les partis politiques sont pointés du doigt dans la déchéance du pays. Une position nuancée par Lionel Elengonga, il est député à l'Assemblée nationale de transition.
les militaires, les acteurs civils, nous sommes tous responsables. Qu'est-ce que nous avons fait pour empêcher cela? Il y a d'autres qui ont voulu agir, qui ont dénoncé, mais qui ont été arrêtés et emprisonnés. Certains parmi nos anciens leaders sont même morts au péril de leur vie à cause de défendre notre pays. Donc on ne peut pas mettre comme pour responsable seuls les partis politiques. Et c'est le gouvernement qui mettait en place les mécanismes qui légalisaient les partis politiques.
Pour le ministre de l'Intérieur, son département et les acteurs institutionnels proposés par les contributions citoyennes du dialogue seront soumis à un devoir d'impartialité dans la conduite du processus électoral. Herman Imongo.
Ce sont des femmes et des hommes qui sont tenus devant la loi de respecter un certain nombre d'obligations et qui sont des justiciables. Cela veut dire que s'il est avéré que ces femmes, que ces hommes font preuve de partialité, ils sont justiciables. Ils doivent rendre compte devant la loi. Mais je ne voudrais pas entretenir un soupçon qui, à mon sens, n'a pas de raison d'être.
Cette réforme controversée, incluant la suspension des partis politiques, n'aura force de loi qu'après sa promulgation par le président de la République. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Après une interruption de 2 jours due à une panne d'électricité, le comité syndical du quotidien national de l'Essor a tenu une conférence au terme de laquelle son secrétaire général Bassaro Aïdara a adressé un appel aux autorités sur la situation critique du journal et du seul groupe électrogène de la MAP qui est en feu depuis le 1er mai. Mohamed Diawara, journaliste à l'Essor, nous donne un aperçu de la situation.
Après 2 jours sans parution, faute d'électricité, le comité syndical du quotidien national L'Essor a tenu une conférence au terme de laquelle son secrétaire général, Bassaro Haïdara, a interpellé les autorités sur la situation du journal et du seul groupe électrogène de l'AMAP qui a pris feu depuis le 1er mai. Mohamed Diawara, journaliste à L'Essor, nous fait le point.
Ces dernières 48 heures, L'Essor a été confronté à la non-publication, surtout le jeudi. L'Essor n'a pas été publié, faute d'électricité. Alors, les distributeurs sont restés à l'attente pendant plusieurs heures. Et malheureusement, c'est le lendemain, le vendredi, que nous avons pu publier les 2 numéros ensemble. C'est ainsi que la situation s'est déroulée.
Le secteur privé des médias n'est pas non plus épargné. Directeur de publication de l'hebdomadaire Mali Horizon, Bruno Djito Segbedji, fait recours au système débrouille pour pouvoir mettre son journal à la disposition de ses lecteurs et abonnés.
On arrive à jongler, tu fais un travail sur ton ordinateur portable qui a une certaine autonomie pour travailler, mais ça peut vous lâcher à la phase de montage. C'est vraiment difficile, mais on arrive à jongler, si je peux dire, pour aller dans un cyber quand ta machine portable te lâche, pour compléter, envoyer certains articles par WhatsApp sur le téléphone. C'est pas évident, mais on arrive, comme c'est une pression d'honorer nos engagements vis-à-vis des lecteurs, on arrive tant bien que mal à relever le défi.
Sans électricité au sein de sa rédaction, Nde Ombotimbe, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Bercail, squatte le Centre international de conférences de Bamako dans l'espoir de pouvoir être dans les kiosques ce lundi. Nde Ombotimbe.
Ah, moi, je suis même dans le cas. Depuis 2 semaines, je suis en train d'écrire, mais je n'arrive même pas à sortir. Depuis le vendredi, je voudrais sortir, mais à présent, je n'arrive pas. Tu vois, même aujourd'hui, je vais voir si je peux écrire quelque chose pour le lundi. Donc, ça veut dire que vraiment, ça a beaucoup impacté les entreprises.
Et quand, tant bien que mal, les journaux parviennent à boucler leur numéro du jour, la parution peut être bloquée au niveau de l'imprimerie, comme nous l'explique Mariam Sissoko du bi-hebdomadaire Le Sursaut.
Avec les ordinateurs bureautiques, sans l'électricité, c'est très difficile qu'on puisse travailler avec. Mais avec les coupures, on n'arrive pas à produire comme il le faut. Souvent, même après avoir bouclé, tout est fin prêt, mais au côté de l'impression, ça pose problème puisqu'il n'y a toujours pas d'électricité. Ça arrive souvent même qu'on loupe des parutions à cause de ça.
Des programmes télé et radio en suspens, en attendant le retour de l'électricité, fait désormais partie du quotidien des acteurs de l'audiovisuel et de leurs millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manila Kidza à son micro. Firmin Koyaweda a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à toute l'équipe de production et de la rédaction. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.